François Bujon Létang, bonjour.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Vous avez été ambassadeur de France à Washington. Vous avez été le conseiller diplomatique de Jacques Chirac. François Bujon Létang, pourquoi les Américains en veulent tant à l'Europe, à l'euro? On cherche désespérément un message de soutien, notamment de Barack Obama, vis-à-vis de cette crise européenne qui nous ronge.
C'est vrai, vous avez raison. On cherche désespérément un message de soutien. On le cherche depuis longtemps, d'ailleurs. Si vous permettez, je reprendrai votre expression. Ils n'en veulent pas à l'Europe ou à l'euro, mais ils n'y croient pas, en réalité. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Les Américains ont toujours eu beaucoup de mal avec ce que nous appelons la construction européenne. Ils sont obsédés par leur type de fédéralisme à eux, par leur histoire à eux, par l'histoire passée de l'Europe. Et ils ont toujours montré un certain scepticisme à l'égard de la construction européenne et une certaine préférence pour parler avec les capitales européennes individuellement, avec Berlin, Londres ou Paris, beaucoup plus qu'avec Bruxelles. Lorsque le traité de Maastricht a été conclu, les Américains n'y croyaient pas. J'étais à ce moment-là ambassadeur à Washington au moment où l'euro a été créé. Et pendant toutes les années qui ont précédé l'entrée en scène, si je puis dire, de l'euro, les Américains disaient par les voix les plus autorisées, ça ne marchera pas, ça n'arrivera jamais, les Européens ne se mettront pas d'accord. Et les plus grandes autorités monétaires ou financières américaines exprimaient sans réserve leur scepticisme. Par la suite, l'euro est né. Il est même monté jusqu'à 1,40$ et même au-delà.
Mais même là, oui.
Oui, aux grandes dames des Américains qui s'en étonnaient et qui en souffraient, bien entendu, pour beaucoup de leurs transactions ou de leurs voyages touristiques. Mais ce scepticisme est toujours resté. Et aujourd'hui, les mêmes, je pourrais mettre des noms dessus, qui disaient l'euro ne verra jamais la lumière du jour, l'euro ne marchera pas, sont en train de dire, nous vous l'avons bien dit, les Européens n'ont pas ce qu'il faut pour créer une vraie fédération. Et il n'y a jamais eu, en effet, venant des États-Unis, aucune voix officielle qui se soit prononcée en faveur de l'euro ou qui ait exprimé des messages de soutien ou d'encouragement.
Mais c'est quoi? C'est une crise de jalousie au départ? Une crise de jalousie? Je suis un peu humoristique en disant ça parce qu'il faut bien un petit peu d'humour.
Non, c'est d'abord, je pense, ça vient de l'histoire américaine et du fait que l'histoire du fédéralisme américain était très très différent. Aujourd'hui, d'ailleurs, un certain nombre de grands Américains exposent volontiers comment Andrew Hamilton, à l'époque du président Jefferson, a réussi à mutualiser la dette aux États-Unis, puis à créer un impôt fédéral et ainsi à donner l'élan qu'il fallait au fédéralisme monétaire, qui n'existe pas encore chez nous sous une forme aussi achevée. Mais il est vrai que l'histoire des pays européens est beaucoup plus complexe et bien différent de celle des 13 colonies américaines. Et les Américains ont toujours du mal à le comprendre. Je suis désolé, ça a l'air primaire de dire ça, mais je crois que c'est profondément vrai. Et puis, il y a autre chose, c'est que les Américains ont toujours une certaine propension à considérer un concurrent comme un adversaire.
Oui, voilà.
Et ils ont vu dans la naissance de l'euro, bien sûr, un concurrent du dollar, ce qui était une façon, je dirais presque antagoniste de considérer l'euro. Alors qu'au fond, ils auraient pu considérer que l'euro était une création qui allait les aider à assurer la stabilité financière et monétaire du monde, à côté du dollar. Mais ils n'ont jamais eu cette approche que je dirais coopérative. Oui. Je suis souvent tenté de faire un parallèle avec les problèmes de défense. La défense européenne, souvent, et toutes les tentatives pour créer une amorce de défense européenne ont été condamnées par les Américains parce qu'ils y voyaient une concurrence à l'OTAN, ce que cela n'était pas. C'était un complément, c'était le deuxième pilier dont Kennedy et Kissinger parlaient jadis. Mais ils ont fini par l'admettre et par l'encourager. C'est ce que fait Barack Obama.
On verra dans un instant, François Bujon Létang, notamment cette guerre un peu souterraine, guerre financière qui est en train de se livrer entre la France, l'Europe et les États-Unis, puisque vous avez aussi une cascade de banquiers. Mais tout d'abord, cette semaine, on attendait un accord sur la dette américaine, parce que c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. La dette américaine, elle est bien supérieure à la dette française.
Oui.
La dette européenne, décidément. Pas d'accord. Est-ce que c'est grave, docteur, ou pas?
Oui, mais le patient survivra. Voilà ce que dirait le docteur. La dette américaine, c'est entre 13 et 14 trillions de dollars, c'est-à-dire 13 en 14 000 milliards de dollars. C'est donc proche de 100% du PIB, ce qui est évidemment beaucoup plus grave, par exemple, que la dette publique française. Mais le problème est différent grâce au fonds, au dollar et au rôle qu'il joue dans le monde. Vous avez suivi les étapes précédentes de ce psychodrame qui, au mois d'août, a opposé opposés républicains et démocrates sur le problème de relever le plafond autorisé de la dette américaine. Oui. En échange du relèvement qui a été acquis à la dernière minute, j'allais presque dire à la dernière seconde, du plafond de la dette, le Congrès a créé une commission bipartisane, si républicain, si démocrate, qui était priée de rendre ses conclusions le 23 novembre, veille du Thanksgiving, et de proposer 1,2 trillion de dollars d'économies budgétaires pour les 10 années qui viennent. Cette commission a failli dans sa tâche et n'est pas parvenue à un accord. Pour des raisons qui sont au fond assez simples.
Et que la campagne présidentielle a déjà commencé.
Oui.
Nous sommes déjà dans les primaires, même s'ils ne sont pas officiellement lancés.
Oui, bien sûr. Et ce qui les oppose jouera un très grand rôle dans la campagne présidentielle. Ce qui les oppose est très simple. C'est une vision idéologique complètement différente. Les démocrates estiment qu'on ne peut pas rééquilibrer les finances publiques américaines sans augmenter les impôts. Et se prononcent pour des augmentations d'impôts, ce que, bien entendu, récusent entièrement les républicains. Les républicains, eux, veulent faire des coupes sombres dans les programmes sociaux et notamment dans le Medicare et le Medicaid. Barack Obama a pris une position très claire en présentant ses propositions budgétaires il y a à peu près 3 semaines. Il a exprimé son souhait de voir les impôts relevés et sa décision d'imposer son veto à toute coupe sombre dans les programmes comme le Medicare et le Medicaid. Ouais. Nous avons bien une opposition radicale, une opposition frontale.
Les primaires, en un mot, on voit que finalement, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. À droite, chez les Républicains, oui. Ça redonne une chance à Barack Obama ou pas?
Oui, par définition, il n'y a pas de primaire chez les démocrates, oui, puisque le président sortant se représente. Et ce qui...
Mais il y en a, moi, qu'on
mais
peut
il y
dire,
en a,
côté...
évidemment, oui, chez les Républicains, où il y avait, non pas, comme dirait le général de Gaulle, le vide, mais le trop-plein de candidats. Et plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs, comme vous l'avez vu, explosé en vol au cours de ces dernières semaines. Et pourtant, nous n'en sommes qu'à la toute première phase.
Attention, puisque... parce qu'il y avait la première, la deuxième et la troisième, et c'est ce qui a tué le candidat en l'occurrence.
Oui, absolument. Mais les primaires n'ont pas encore commencé. Elles ne commenceront qu'en janvier avec le caucus de l'Iowa, puis l'élection du New Hampshire. Nous sommes dans la campagne des primaires. Mmh. Et pour l'instant, il y a un candidat républicain modéré, qui est l'ancien gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney, et un grand nombre de candidats républicains conservateurs, de droite, dans lesquels celui qui aujourd'hui semble émerger le mieux est l'ancien speaker de la Chambre, Newt Gingrich.
Merci de tous ces décryptages. François Bujon, les temps. On marque une pause. On se retrouve juste après les infos et on parlera de cette guerre souterraine que se livrent notamment les banques américaines et européennes entre elles. Retour dans le 12-15 avec mon invité, l'ancien ambassadeur de France à Washington, François Bujon de l'Étang. François Bujon de l'Étang, vous êtes aussi président de la filiale française d'un grand groupe financier bancaire américain. On a le sentiment que c'est vraiment un peu la guerre ouverte, mais souterraine, hein, entre les banques américaines et les banques européennes. Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
Non, il n'y a pas de guerre souterraine. Je pense que ce... Il faut pas le présenter comme ça. Il y a des positions concurrentielles différentes. Il y a des soucis différents.
Là, c'est le diplomate qui parle.
Mais il y a des expositions aux risques qui sont différentes. Or, le risque est évidemment l'essence même du métier bancaire. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait que beaucoup, les banquiers français n'aiment pas qu'on rappelle cela, mais beaucoup de banques américaines sont mieux capitalisées que des banques européennes, simplement parce qu'elles ont été frappées beaucoup plus violemment à l'automne 2008 par la crise financière. Et que, étant frappées très violemment, alors que les banques européennes l'étaient moins, elles ont eu à se recapitaliser très vite, ce qui explique qu'elles ont aujourd'hui des ratios prudentiels ou des ratios de liquidité qui sont meilleurs que les banques européennes et qu'elles n'auront pas à faire le même effort dans les mois qui viennent. C'est une première chose qui les oppose, en quelque sorte. La seconde, c'est qu'elles ont évidemment le désir de se protéger contre le risque souverain en Europe, qui est aujourd'hui le risque numéro un. Et elle se méfie du risque souverain en Europe, d'une part, et d'autre part, des agents économiques qui portent le risque souverain en Europe, c'est-à-dire des banques européennes. Et en ce sens, elles ont en effet des préoccupations qui sont différentes de celles des banques européennes.
Donc ça veut dire qu'elles essayent de se délester, un, de dettes souveraines européennes, et deux, des entreprises bancaires, notamment, qui ont des dettes souveraines européennes.
Mais
c'est ça que ça veut dire.
Mais ce n'est pas si simple, parce que, bien entendu, elles sont très engagées dans la vie internationale, dans la vie vie économique européenne. Elles sont très présentes sur les marchés européens, presque toutes les grandes banques américaines y sont présentes, et elles ne peuvent pas s'en désengager, mais elles cherchent effectivement à se prémunir, et elles ont l'œil rivé sur leurs risques.
Et ça se traduit concrètement, c'est un phénomène de quelle ampleur aujourd'hui, si on essaie de le mesurer ?
C'est difficile à mesurer, parce que ça varie beaucoup d'une banque à l'autre, ou même d'un pays à l'autre, mais c'est certainement une préoccupation qui se retrouve dans la vie quotidienne de l'ensemble du système bancaire.
Est-ce qu'il y a des consignes de la part des entreprises étrangères de retirer leurs fonds de banque dans les banques européennes et françaises et d'aller les mettre dans des banques comme la vôtre, des banques à grands groupes américains ?
Pas que je sache, les entreprises industrielles américaines en Europe sont également très engagées dans la vie économique. Elles ne peuvent pas retirer. Je n'ai pas connaissance de la moindre instruction en ce sens.
Est-ce que, si vous êtes diplomate, c'est vrai que vous connaissez mieux les États-Unis, mais malgré tout, François Bujon-Létang, est-ce que vous espérez qu'il y a un accord, une réforme des traités qui pourrait permettre une solution à cette crise qui frappe durement la crise euro,
le 9%. Une réforme des traités européens. Ouais. Oui, bien sûr, puisque tout le monde veut améliorer la gouvernance de la zone euro, notamment, et la gouvernance de l'Union européenne. Et on peut songer à porter des améliorations aux traités.
Vous connaissez le modèle américain, c'est ça que vous pensez ou pas ?
Non, parce qu'encore une fois, notre histoire est différente et que nous sommes engagés dans une entreprise de construction européenne qui ne peut pas se comparer au fédéralisme américain. Non, on peut songer à des améliorations des traités. Angela Merkel le préconise. Les gouvernements français et autres, d'ailleurs, se sont montrés ouverts sur ce point. Mais ce n'est pas l'urgence immédiate. L'urgence immédiate consiste à trouver la parade à l'agitation des marchés et à ériger les digues qui permettent de maintenir l'eurozone à flot. Donc, les traités, c'est une opération de longue haleine. J'ajoute d'ailleurs, c'est une remarque personnelle, que on a souvent reproché à l'Europe de passer beaucoup trop de temps à se préoccuper de ces sujets institutionnels. Et rappelez-vous qu'on a passé énormément de temps avec le référendum, la Constitution, puis l'idée d'un traité simplifié, le traité de Lisbonne. Et nous sortons d'une très très longue période qui a été une période institutionnelle en Europe. Aujourd'hui, il s'agit évidemment de parer au plus pressé, de répondre à l'inquiétude des marchés et de trouver les bonnes règles de gouvernance de l'eurozone.
Diplomate et banquier, vous voyez bien que c'est pas le même temps.
Le temps des démocraties n'est pas le même que celui des marchés, c'est incontestable, et c'est un défi pour les démocraties que de trouver les parades nécessaires tout en respectant, bien entendu, leur processus et leur rythme propre.
Le fait que les Allemands aient eu autant de mal à placer, et encore ils n'ont pas réussi à tout placer, leur dernière obligation, émission d'obligation, est-ce que c'est quand même un signal, c'est la question un peu rituelle depuis deux jours, hein, mais est-ce que vous pensez que c'est un signal alarmiste pour les Allemands, donc il faut faire quelque chose, notamment autour du rôle de la Banque Centrale Européenne.
Oui, ce serait aux Allemands à répondre à cette question, mais il est clair que ce qui s'est passé
hier... La réponse officielle, c'est niet. Hein,
oui, mais ce qui s'est passé hier a montré qu'au fond, les difficultés d'émission de nouvelles obligations concernent l'ensemble des partenaires de la zone euro, et pas seulement ceux qui ne trouvent que des taux extrêmement élevés. Donc c'est en effet un signal d'alarme, et c'est comme cela, j'imagine, que les Allemands vont l'interpréter.
Redoutez-vous l'hégémonie de Goldman Sachs, une banque que vous connaissez bien, même si c'est pas la vôtre. Est-ce que c'est un peu bizarre de voir Mario Monti, Mario Draghi sortir tous de Goldman Sachs ?
Non, et il y a d'autres grands banquiers qui sortent d'autres grandes banques, mais ça prouve certainement que Goldman Sachs avait du talent en choisissant ses collaborateurs, et ça, on ne peut que le saluer au passage.
Toute dernière question rapide comme ça, puisque vous avez travaillé 15 ans dans le nucléaire avant d'être ambassadeur. Vous pensez qu'on a été intoxiqué en France, c'est-à-dire qu'on a vraiment une vision tout nucléaire? Il y a quand même peut-être une réflexion à conduire sur le tout nucléaire à la française?
Moi, je pense que cette expression de tout nucléaire fait partie des expressions toutes faites auxquelles on a volontiers recours. C'est une expression qui appartient aux anti-nucléaires pour l'essentiel. La France n'a jamais misé sur le tout nucléaire. Elle s'est tournée vers le nucléaire en premier lieu parce qu'elle dispose d'uranium. elle disposait, du moins historiquement, d'uranium dans son sous-sol, alors qu'elle ne disposait ni de gaz ni de pétrole et qu'elle n'avait plus de charbon. Mais par la suite, le développement d'un programme nucléaire qui est envié dans le reste du monde et qui est un succès majeur de l'industrie et de la technologie française a eu lieu et reste un de nos atouts principaux. Mais il n'y a pas de tout nucléaire. La France continue de travailler au développement des énergies alternatives et cherche à diversifier sa palette énergétique. Donc je récuse cette expression. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nous avons aujourd'hui un instrument industriel exceptionnel et que si nous lui portons atteinte ou si nous le diminuons, nous portons un coup sévère à la compétitivité française, aux emplois, à la technologie que le reste du monde nous envie.
Et c'est ce que vient d'affirmer aussi Pierre Lelouch, qui est secrétaire d'État en charge du commerce extérieur. Merci beaucoup François Bujon-Létang, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.